Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Petit Plateau qui se met déjà en mode Tour de France 2025. Ben oui, bien sûr, on vient de découvrir le parcours, donc on va évidemment vous donner notre avis là-dessus. Je dis notre avis, ben les amis, Romain, Alexis, je vais tout de suite vous donner la parole. Romain, par exemple, que penses-tu, toi, de ce parcours qu'on vient de nous dévoiler?
Bah, salut tout le
Salut tout
monde.
le monde. Et...
Effectivement, moi, je vais avoir un avis assez tranché pour une fois. Je suis assez déçu. Je le dis tout de go. Déçu parce que, ben, en fait, la divulgation d'un nouveau parcours du Tour de France, c'est toujours une occasion, je trouve, de voir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Et ici, ce n'est pas le cas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien de neuf. On va évidemment pouvoir en reparler dans cet épisode, mais de manière globale. Je trouve que on a ici, on est face à un tour qui est d'un classicisme qui, moi, me dérange un peu. Je prends un exemple pour illustrer ça. Le tour repasse en Bretagne et on retourne à Mur de Bretagne. Il y avait, je pense, d'autres choses intéressantes à faire dans cette belle région. Et voilà, je suis un peu déçu. Et alors, au-delà de ce manque de nouveauté, pour ne pas dire d'audace même, ce qui me dérange un peu aussi, c'est l'aspect redondant de certaines étapes. Là aussi, un exemple, sans rentrer dans le détail, mais si vous prenez les 5 étapes de haute montagne au programme de ce Tour de France 2025, en gros, on a 5 fois le même profil et donc on risque d'avoir 5 fois le même type de course.
Alexis, ton sentiment, toi, sur ce
Je suis
tour?
assez d'accord. Au final, je pense que du spectacle sur ce tour, il y en aura, il risque d'en avoir dans beaucoup d'étapes, et c'est ça qu'on veut au final. Mais en termes de parcours, je suis assez d'accord. Non seulement c'est pas très original par rapport à ce qui a déjà été fait dans le passé, mais aussi, comme dit Romain, c'est très redondant. Toutes les étapes se ressemblent. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que les organisateurs, ils ont voulu faire, si on met de côté le contre-la-montre, ils ont voulu faire 3 blocs vraiment distincts. Avec d'un côté un tiers d'étape de sprinter, un tiers d'étape pour puncher et un tiers d'étape pour grimpeur. Mais les étapes de montagne, par exemple, comme dit Romain, elles se ressemblent toutes. C'est toutes des arrivées au sommet et des cols extrêmement longs. Il n'y a pas d'étape de moyenne montagne avec des cols plus courts, à part une, la dixième étape. Il n'y a pas de cols plus courts, plus punchy, des cols qui s'enchaînent, voilà, de type classique. Donc voilà, les étapes vont toutes se ressembler et si on suit la logique de 2024 et 2023, il y aura les mêmes vainqueurs à chaque fois. Donc spectacle, oui, mais redondance et vraiment pas d'originalité au sein même du tour, quoi. Toutes les étapes sont les mêmes.
Tu dis un tiers sprinter, un tiers puncher, un tiers grimpeur à la grosse louche. Ça veut dire, on va tout de suite partir sur par exemple le maillot vert. Ça veut dire qu'il faudra quel profil pour remporter le maillot vert? Est-ce qu'un sprinter pur peut l'avoir? Est-ce qu'il faut un puncher? Est-ce qu'il faut, bah, ce qui est souvent le meilleur combo, le sprinter-puncher, je vais dire.
Bah,
Tu
c'est ça.
imagines quel profil? Et si tu devais dire un nom, peu importe même qu'il soit au départ ou pas, dans le peloton, un nom qui te dit, bah, oui, ça, c'est le bon candidat vu les étapes auxquelles on a droit.
Bah, il faut un sprinter moderne. On en a déjà parlé. Les sprinters modernes ont tendance à avoir du punch et les punchers modernes ont tendance à savoir sprinter. Il faut un qui sache faire les deux. Donc, franchement, les favoris logiques, on peut penser à Girma et Philipson, mais au final, tous ces coureurs-là savent faire les deux, donc des Pedersen, des Dely, des Van Aert et même des Philipsen, pardon, des Van der Poel si Philipsen n'était pas là, pourraient les viser. Donc ça peut donner un combat très intéressant entre ces sprinter-puncher et ces puncher-sprinter, hein, comme on a déjà dit. Mais au final, je pense que c'est ceux qui manient le mieux les deux, donc je dirais les sprinters les plus rapides qui savent puncher, c'est-à-dire Philipsen et Girmay. Qui vont être les favoris pour en tout cas pour avoir le plus victoire d'étape finale. Maintenant, on sait qu'un Van Aert ou un Pedersen peuvent aussi aller s'illustrer sur des sprints intermédiaires. Donc, si tout ce beau monde se met à viser le maillot, je pense justement ces 2 blocs distincts peuvent rendre le combat très intéressant.
Romain, d'abord, est-ce que tu es d'accord? Et ensuite, est-ce que le maillot vert va être joué assez tôt dans le tour, vu qu'on a plusieurs blocs, et en plus, on a plusieurs blocs, même chronologiquement, je vais dire, c'est assez séquencé comme tour.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, en fait, pour avoir un tour qui aurait davantage mis en vedette ou en lumière des profils, on va dire plutôt baroudeurs que sprinteurs, il aurait fallu avoir des courses d'usure plus fortes sur les étapes dites de plat ou de transition. Et pour moi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement certaines étapes qui vont éliminer certains sprinteurs. Mais à part les étapes de haute montagne et l'une ou l'autre, je vois pas vraiment de profil où on va pouvoir éliminer l'ensemble des sprinteurs. En revanche, c'est vrai, il y a quelques étapes qui vont se finir sur des petites bosses très sèches. Un profil à la Mathieu Van Der Poel, par exemple, et je rejoins tout à fait ce que dit Alexis, un profil comme Mathieu Van Der Poel serait idéal si un Jasper Philipsen n'est pas là. Mais on sait que Van Der Poel a remis en question, avant la divulgation du parcours, une présence au Tour de France. Et au même moment, Philipsen disait: Ah, voilà un tour très intéressant, parce qu'au-delà du maillot vert, et c'est pas ici pour la transition, mais il y a une possibilité pour les sprinteurs de prendre le maillot jaune en début de tour. Et donc, on sent très bien que chez Alpecin de Sénac, on pourrait effectivement se diriger vers tout miser à nouveau sur Philipsen. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que de nouveau, un Van der Poel, un Van Aert, un Delis, même dans une moindre mesure, comme le mentionne Alexis, auraient une belle carte à jouer sur un tel tour pour le gain du maillot vert, parce que c'est des mecs qui savent sprinter, qui pourraient, devraient être là dans le final des étapes plutôt bosselées, on va dire ça comme ça, et qui sont tout à fait capables, effectivement, de réduire ou de compenser peut-être le manque de points face à des purs sprinteurs sur les étapes de plat, en allant chercher des points dans les sprints intermédiaires, y compris dans les étapes de haute montagne. On a déjà vu certains le faire par le passé.
Et puis Philipsen qui était très content, lui, évidemment, quand il a vu le parcours. Je dis évidemment parce que d'abord, bah, comme tu l'as dit, il y a la possibilité d'aller chercher le maillot jaune, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant pour les sprinteurs. Et puis lui avait l'air de dire qu'effectivement, c'est un parcours qui est bien pour lui parce qu'il va mettre en difficulté les sprinteurs qui passent moins bien que lui. Il a dit, bon, mur de Bretagne, ok, trop dur pour lui. Mais pour le reste, il est assez content de la première semaine. Donc, ça rejoint assez ce que tu dis, pardon. Lui est très content de ce parcours.
Et puis même les étapes toutes plates, plusieurs sprints sont mal plats, on va dire, hein, finissent sur quelques petits pourcentages. Mais au final, tous les meilleurs sprinteurs du monde actuellement se débrouillent très bien sur ce genre d'arrivée-là. Donc ça peut donner plusieurs sprints très intéressants.
Oui, et c'est vrai qu'Alexis l'a mentionné, hein, il n'a pas de sprinter moderne. Je pense que des gars comme Greipel, par exemple, à l'époque, auraient pu viser clairement des victoires d'étape sur ce tour. Mais ça aurait été sans doute un peu compliqué pour des coureurs comme lui de pouvoir être là, être présent tous les jours, parce que ce serait une nécessité, en tout cas lors des 9 premiers jours de course. Parce que là aussi, on a vraiment le retour de ces tours à l'ancienne, finalement, découpé quelque part presque en deux parties, avec une première séquence, on va dire, pour laisser les sprinteurs s'amuser, avant de passer dans un enchaînement d'étapes montagneuses et de cols interminables. Donc, il faudra pas se louper, et c'est clair que ça peut aller très vite. C'est-à-dire que je pense que c'est un maillot vert qui peut tomber dans l'escarcelle de plein de coureurs différents. Par contre, on peut très vite le perdre aussi, parce que si au bout du week-end d'ouverture, si au bout de ce grand départ dans le nord, on est à la traîne, ça va être compliqué d'aller rechercher justement beaucoup de points sur les autres sprinteurs qui auront, eux, par contre, déjà emmagasiné pas mal de points.
Pour ne vexer personne et aucun supporter, on va dire Eric Zabel, donc maillot vert, hein, pile poil pour lui. Et donc, je pense qu'on peut parler à la montagne, vous l'avez déjà évoqué. Je pense que Romain, c'est toi qui as dit, effectivement, on peut considérer que ce ne sont que des arrivées au sommet cette année. Vous avez parlé de redondance sur l'ensemble du tour, mais de redondance également dans les étapes de montagne. Alors, est-ce que vraiment on doit s'attendre à des scénarios? Alors, on dirait les formes parfois elles fluctuent, mais un scénario qui va se répéter avec la même hiérarchie de force, je vais dire, étape après étape en montagne, ou on peut quand même espérer quelque chose?
Oui, ben peut-être pour brûler la politesse à Alexis, juste peut-être mentionner une étape avant la haute montagne. D'ailleurs, Alexis l'avait mentionné, c'est celle de moyenne montagne, entre guillemets. Puis entre guillemets, c'est celle, donc c'est l'étape numéro 10, hein, celle qui va relier Eneza au Mont d'Or, au Puy de Sancy. Et c'est pour moi la plus belle étape tracée, en tous les cas, de ce Tour de France. C'est un mini Liège-Bastogne-Liège où on ne ferait que Bastogne-Liège, en fait. Hein, on a un D+ qui doit avoisiner les 4 400, si ma mémoire est bonne. Mais pourquoi est-ce que je tenais à intervenir ici? Parce que cette étape est magnifique, mais là encore, elle se termine en altitude. Même l'étape de moyenne montagne, elle se termine en altitude. Et ça, je trouve, c'est assez dommage. En tout cas, c'est dommage à partir du moment où toutes les étapes de haute montagne se terminent également en altitude.
Alexis, une
Bah écoute,
spécialiste chiffre, hein. Est-ce
bah,
que tu as vu quand même des petites différences dans les étapes de montagne ou est-ce que c'est, je ne vais pas dire des copier-coller, mais on va le schématiser comme
bon,
ça?
il y a évidemment des différences. En termes de tracé, c'est vraiment très très similaire. En fait, tu as donc 5 arrivées au sommet, le contre-la-montre aussi qui est 11 km à Perak également au sommet. Mais en gros, tu as deux cols de plus de 20 km. On va dire que c'est les cols longs, le col de la Loze et le Mont Ventoux. Et puis, tu as les cols courts. Mais c'est des cols qui font plus de 10 km aussi, donc ça reste des cols très longs. Donc au final, c'est différent, mais ça reste des cols très longs qui vont favoriser les spécialistes des longs efforts.
Et même dans l'approche des ascensions finales, hein, on a un type de parcours, on a systématiquement deux, trois longs cols. Ce sont des profils, hein, si on regarde, ça monte, ça descend, ça monte, ça
Sauf le
descend.
Mont Ventoux, en fait.
Ou c'est une course de côte. Mais c'est ça qui m'ennuie, c'est qu'avec de tels profils, on risque d'avoir des courses de côte sur toutes les étapes de montagne. On sait qu'un Pogacar est du style à partir dans l'avant-dernier col, pour ne pas dire dans l'antépénultième. Mais on risque très fort d'avoir des équipes qui vont, on sait lesquelles, UAE et Visma, qui vont tenter d'imprimer des rythmes de fou et de contrôler durant toutes les premières ascensions pour laisser ce que certains vont appeler le feu d'artifice, ce mano à mano entre grimpeurs dans l'ascension finale. Et ce qui m'ennuierait, c'est qu'on retrouve ce type de course dans chacune des cinq étapes de montagne.
Tu as dit des noms et toi, Alexis, tu as parlé aussi de favoriser les grimpeurs qui font des longs efforts. Romain, tu as dit UAE Visma, ben on va tout de suite, on va pas tourner autour du pot très longtemps. C'est un tour pour Pogacar, comme on peut le lire et l'entendre ailleurs, ou pas nécessairement pour Pogacar?
Pas nécessairement. Romain, je sais pas si tu veux répondre en premier. À mon avis, on va avoir une réponse assez similaire. En fait, si je te réponds maintenant, fin 2024, avec ce que je viens de voir, ce que je viens de vivre en cette année 2024, je vais dire, bah oui, c'est un tour 100% pour Pogacar. Mais d'un autre côté, avec ce qu'on vient de voir en 2024, justement, qu'est-ce qui ne serait pas un tour pour Pogacar? Tous les tours, tous les tracés seraient bons pour Pogacar. Et au contraire, j'ai envie de dire, à l'heure où ce tour a été tracé, donc imaginons qu'on fait ce podcast il y a un an. On aurait pu dire, ben non, en fait, c'est un tour qui est totalement fait pour Vingegaard et pas pour Pogacar, parce qu'il y a encore peu, le point faible de Pogacar, c'était les efforts très longs, les cols de plus de 40 minutes, je l'ai dit plein de fois. Je me suis trompé, parce que, enfin, je ne sais pas si je me suis trompé, mais en tout cas, il a corrigé cette erreur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était le point fort de Vingegaard, c'était le relatif point faible de Pogacar, maintenant, c'est plus du tout le point faible de Pogacar, c'est quand même encore censé être le point fort de Vingegaard, donc. La question qui reste à poser, c'est est-ce que Vingegaard va réussir à combler l'immense fossé que Pogacar a creusé ou pas? Si oui, bah on aura deux types bien au-dessus du lot. Sinon, on aura un type bien au-dessus du lot. Et donc oui, c'est un tour pour Pogacar, mais comme tous les autres tracés l'auraient été également.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et effectivement, on a vu en 2024 les progrès de Pogacar. Mais moi, je me rappelle, et je suis toujours de cet avis-là, que ce que j'ai dit après le tour, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Vingegaard. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un fossé si énorme entre les deux, en fait. Je pense que là, on l'a vu, oui, parce qu'il y a eu des circonstances.
Ben c'est ça,
Alors, le problème, c'est que si on regarde le prisme 2023, il y avait eu des circonstances dans l'autre sens, puisque là, c'est Pogacar qui avait chuté et qui n'était pas à
ouais.
100%. Donc, il faut remonter beaucoup trop loin. Et je pense que ça n'a plus beaucoup de sens de remonter en 2022, mais j'ai tendance à penser que Vingegaard peut peut-être le faire. Ce n'est pas l'objet du débat ici, mais si on me demandait pour l'instant dans ma tête, c'est du 50-50 entre lui et Pogacar. Mais quoi qu'il en soit, qu'il puisse le faire ou pas, je suis mais mille fois d'accord avec toi que c'est plus un tour pour Vingegaard. Ce n'est pas pour autant que Vingegaard va le gagner, mais qu'est-ce qui avantage Pogacar là-dedans, alors que finalement on va sur le point fort de son principal concurrent.
Tout à
Le
fait.
seul truc, c'est vu que c'est que des arrivées au sommet, s'il y a des bonifs, il a plus de punch, allez, mettons. Mais il y a des descentes, Pogacar il s'en fout d'attaquer dans les montées et qu'il y a une descente après, c'est là qu'il fait encore grandir les écarts. Et si Vingegaard sait le suivre en descente, sur un sprint place, c'est quand même Pogacar qui prend les bonifs. Donc, non, pour moi, c'est pas spécialement un tour pour Pogacar, je suis
Non.
d'accord avec toi là-dessus.
Ben, je disais en intro que je trouvais que ça manquait de nouveauté, que ça manquait d'audace. Et c'est vrai qu'on sent vraiment que ce tour a été construit pour ce mano à mano. Sans doute que ASO voulait, face au public, entre guillemets, dont il dispose, face au vivier de coureurs dont il dispose, créer la légende et offrir un duel fantastique sur les cimes. Alors c'est bien beau, c'est vrai, c'est peut-être juste un peu dommage que ce sont les mecs qui se partagent le Tour de France depuis 5 ans. Et sur ce tour-là, je peux effectivement entendre qu'un Jonas Vingegaard, s'il revient au meilleur de sa forme, bien sûr, sera le seul à pouvoir concurrencer Pogacar, mais est peut-être le seul à pouvoir battre Pogacar sur ce terrain-là. Moi, j'ai reconnu ça dans l'autre sens. C'est quelle est l'étape sur laquelle Pogacar pourrait perdre du temps si effectivement ça se joue à la seconde, etc. Il n'y en a pas. Et c'est là où moi j'en veux un peu à SO, c'est que ils ont tout misé sur cette carte de ce mano à mano et d'avoir cet enchaînement en fait d'arriver au sommet. Il aurait presque fallu, je disais, je sais pas, d'audace, presque fallu un tour sans haute montagne finalement pour relancer d'autres mecs dans la course pour voir comment un Pogacar et surtout un Vingegaard allait réagir sur des terrains pareils. Alors Pogacar, on sait bien que sur la moyenne montagne et les courses accidentées, il y a péril, hein, puisque le mec est fort partout. Donc, mais le problème, c'est qu'il est fort aussi en haute montagne. Et c'est vrai que autant à chaud, j'étais plutôt partisan de dire bah, c'est un tour qui ne peut pas échapper à Pogacar. Et c'est vrai qu'après coup, je me dis, par exemple, si j'observe la première semaine, je me dis, il n'y a pas d'autre montagne, bon, c'est vrai, mais il n'y a pas de pavé non plus. Je me dis, alors ça, c'est mon cœur de Flandrien qui parle, mais je me dis, on va quand même passer un sacré bout de temps dans le nord de la France, 4 jours dans les Hauts-de-France, sans avoir un seul pavé. Je suis déçu, mais je peux comprendre que ça aurait été, entre guillemets, donné à Pogacar. À Pogacar ou à un autre. C'est donné à Pogacar dans la mesure où tu lui donnes ça, plus effectivement de la haute montagne derrière. Donc voilà, je suis un peu désabusé par ce parcours qui, effectivement, j'ai envie de dire que ce soit Pogacar ou Vingegaard, je m'en fiche un peu au final, parce que il n'y aura pas de surprise, il y aura sans doute, je l'espère, un beau mano à mano, mais que tout le monde attend et qui ne m'allège pas. Pourtant, Dieu sait si j'aime beaucoup Pogacar. Moi, le Danois. Mais.
Mais tu peux, alors il y a audace et il y a audace, tu peux quand même pas faire un Tour de France. Alors tu peux le faire moins montagneux, mais tu peux quand même pas le faire
Sans
que
montagne.
moyenne montagne, quoi, je
Ça ne peut
pense.
pas.
Non, mais tu peux effectivement varier les profils
Bien sûr.
pour offrir des terrains d'affrontement différents. Qui vont, parce que ce soit Vingegaard ou Pogacar, peu importe, celui qui sera le plus fort cet été dans les cols longs gagnera le Tour de France, c'est une évidence. Vous mettez un Pantani au milieu de ce peloton-ci, bah Pantani aurait pu rivaliser. Mais regardez quels sont les meilleurs grimpeurs derrière Pogacar et Vingegaard à l'heure actuelle. Je vais prendre la Richard Carapaz, je sais pas moi, la plupart des autres, ils sont de toute façon chez UAE, et donc il restera peut-être la quatrième Evenepoel. Ces mecs-là vont jamais aller rivaliser. Ils vont peut-être le faire sur une étape, mais ils vont jamais le faire sur 5 étapes à répéter comme ça. Qui plus est, avec systématiquement trois cols précédemment ou 2 cols précédemment qui vont déjà casser les pattes.
Oui, je vois l'idée. Le problème, j'ai retenu que tu disais, il n'y a pas une étape où Pogacar peut perdre du temps, mais en même temps, je vois pas sur quel profil il peut perdre du temps. Sauf que je vois ce que tu veux dire, que on peut faire rentrer du monde. Si c'est moins difficile, on peut faire rentrer plus d'adversaires, évidemment. Alors quand je
Sûr.
dis je peux pas, il peut pas perdre du temps, oui, alors on va parler de toute façon, justement, on allait y arriver à un moment donné, du troisième homme, finalement, qui était sur le podium, qui est un troisième homme à part, hein, dans un monde à part, mais alors, ça devient quand même beaucoup. Il faut mettre plus de kilomètres contre le chrono pour remettre Remco dans le jeu, par exemple. Hein.
Et
Plus de kilomètres contre
encore.
le chrono, de la moyenne montagne au lieu de mettre de la haute montagne. Enfin, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de choses si tu veux remettre quelqu'un dans le match, je pense. Ils sont tellement
Ce
au-dessus,
serait
ces
un peu
deux-là,
trop
que.
gros. Ce serait un peu trop
Oui,
gros, je pense. Tu
quand.
peux pas faire un tour avec 200 km de chrono plat et
Non.
seulement 2 cols hors catégorie, tu vois. Ça ne va
Naturellement.
pas. Et moi, j'ai un peu envie de faire l'avocat du diable ici, parce qu'au fond, j'aurais préféré, hein, comme vous, ou comme Romain, en tout cas, un tour plus varié, avec plus de hautes montagnes, avec des pavés, avec plus de ci, plus de ça. Mais pour faire l'avocat d'ASO ici, c'est le seul type de parcours, on l'a un petit peu dit, c'est le seul type de parcours qui pourrait mener à un mano à mano. Tous les autres types de parcours, c'était free win pour enfin, victoire facile pour Pogacar. Ici, c'est un peu avec cette question-là qu'on va devoir jouer pour trouver l'excitation sur ce Tour de France. C'est est-ce que Vingegaard va savoir retrouver son niveau de 2023, ou retrouver celui de Pogacar, ou peut-être même redevenir meilleur que Pogacar? Parce que si Vingegaard reprend la main face à Pogacar, bah c'est typiquement sur ce genre de profil-là qu'il peut le battre. Et c'est le seul type de profil sur lequel il peut le battre.
Maintenant, il y a deux prismes. Avant de parler Remco, il y a aussi le prisme des échappés. Parce que là, on ne regarde que par le classement général, le mano à mano. Je ne sais pas si les profils qui se répètent sont vraiment à l'avantage des échappés pour qu'on essaye de voir quelque chose. C'est déjà de moins en moins le cas que les échappés arrivent à faire des choses. Je ne sais pas si on leur a facilité la tâche, là. Moi, j'aime quand même bien quand il y a des arrivées dans les étapes de montagne, il y a des arrivées avec une petite descente et du plat où il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Finalement, ça amène quelque chose, ça amène du suspense. Il peut y avoir des regroupements, il peut y avoir des très bons descendeurs qui font la différence. En fait, je reviens sur ce que vous avez dit dès le départ, c'est la redondance. J'ai rien contre les arrivées au sommet, que du contraire, si on me fait une étape où il y a aucune, pardon, un tour où il y a aucune arrivée au sommet, je vais râler aussi.
Bien
Mais il
sûr.
faut un peu de tout, quoi, tout
C'est
simplement, parce
ça.
que chaque type de profil a son charme. Mais ouais, là, c'est un peu dommage.
Pour les
Ouais.
échapper, mis à part un ou deux cadeaux diplomatiques, j'ai du mal à envisager
L'avant-dernière,
de...
c'est
Mais
l'avant-les-champs.
et le souci, c'est que, enfin, le souci, regardez Pogacar cette année-ci, hein, il n'a rien laissé.
non, il
Il n'a
voulait
rien
pas.
laissé. Et quand Pogacar était mis en difficulté sur les 2, 3 dernières années, comme tu l'as dit, Damien, c'est soit parce qu'il était tombé précédemment, soit c'est remonté quand même assez loin. Le Slovène avait beaucoup évolué depuis. C'est quand il était mis en difficulté, pas par Vingegaard, par l'équipe de Vingegaard. Hein, quand il est battu au Granon, c'est autant, je pense, le talent de Vingegaard, le talent de grimpeur de Vingegaard, que le travail de sable de Roglic dans le télégraphe et entre le télégraphe et le Galibier, qui fatigue exagérément Pogacar, qui ne prend pas de gel à ce moment-là, qui oublie de boire et qui du coup a cette fringale dans le Granon. Quelques semaines plus tard, à Hautacam, c'est les forts tonitruants de Van Aert qui explosent complètement au moment où Vingegaard s'envole, qui crée des difficultés pour Pogacar. Donc, le problème, c'est que on parle d'une époque où Visma était intouchable. Aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé. Alors, du coup, ça montre aussi qu'une saison n'est pas l'autre. Hein.
Oui, tout à fait.
Enfin, quand vous allez avoir un Pogacar qui va prendre le départ ici d'un tour hyper montagneux avec Adam Yates, Sivakov ou Del Toro qui vont prendre un an de bouteille en plus chez eux, avec Almeida, Ayuso, enfin, ils ont une flopée de mecs qui aurait peut-être pu se mêler à la lutte pour le podium ou une victoire sur un tour beaucoup plus varié s'ils avaient bien sûr été dans une autre équipe. Et là, on va avoir vraiment ce mano à mano où, effectivement, l'avantage de l'équipe va jouer, je pense, enfin, en tout cas sur papier, cette année, plutôt pour Pogacar que pour Vingegaard, même si, de nouveau, il faut voir comment vont évoluer les coureurs. Et il y a aussi du mouvement chez Visma, bien évidemment, hein, mais enfin.
Ouais, moi j'ai deux choses sur lesquelles j'aimerais réagir. L'équipe, pour moi, ça a une importance, hein, mais peut-être un peu, je vais la tempérer. Pour moi, ça n'a marché, ce qu'ils ont fait au Granon, que parce que c'était l'époque où Roglic était encore un candidat crédible à une victoire finale.
Bien
Parce
sûr.
que là, on peut dire ils ont Simon Yates qui peut faire quelque chose, mais Pogacar, il ne va pas regarder Simon Yates. Hein.
Il peut lui laisser 10 minutes.
Voilà, c'est ça. En fait,
Ouais.
là, le problème, c'est qu'il a dû, enfin, il s'est senti obligé, en tout cas, de sauter dans la route Roglic. Et ils étaient deux leaders contre lui. Si t'as pas deux leaders, Pogacar, il peut laisser partir. Et comme tu dis, en plus, il a l'équipe pour ramener
Mais
dessus si
voilà.
nécessaire. Donc, voilà.
Et si Simon Yates part, il est évident que Adam Yates l'accompagnera,
Bah ouais.
ou Almeida, ou Ayuso, qui ont autant, si pas plus de chances que Yates, de remporter le Tour de France si on leur laisse
Tout à fait.
le quart d'heure d'avance. Donc, dans tous les cas de figure sur papier, UAE et Pogacar, pour moi, ne sont pas mis en difficulté, sauf si effectivement Vingegaard atteint un niveau au moins aussi fort que 2023.
Oui, alors on va se moquer de moi avec ce que je vais te dire là. La deuxième chose que je voulais dire, je sais hein, qu'on va me tomber dessus, et peut-être même vous les premiers. Pogacar, il n'est pas infaillible. Qu'est-ce qui s'est passé encore sur ce Tour de France? Un Vingegaard qui revient du Diable Vauvert, il y a une étape, il le bat au sprint, mais s'il veut lui prendre du temps, il lui prend du temps. Hein. Pogacar, il a quand même. Alors, je ne vais pas dire à chaque tour, mais il y a une étape comme ça où, hop, qu'est-ce qui se passe chez Pogacar? Alors, oui, c'est une fringale, oui, il oublie de s'alimenter, oui, ça, et ça n'arrivera peut-être pas cette année, mais. Je me dis, si tu as du Vingegaard qui n'est pas passé par là, parce que j'insiste vraiment là-dessus, moi je ne sais pas s'il a si gros fossé à combler. En fait, dans les chiffres, je n'ai pas l'impression. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette impression de facilité où on se dit, Pogacar, il pouvait peut-être encore remettre beaucoup plus. Et là, alors, il y aurait un sacré fossé. Mais sinon, parce que les temps, si je ne dis pas de conneries, hein, j'espère que non, je pense que Vingegaard, il a battu ses meilleurs temps l'année passée, en étant passé par où
Ouais.
il est passé. Hein. Parce que, bah, on va pas faire le débat ici du monoxyde et de machin chouette, mais parce qu'il y a eu quelque chose, manifestement, pour peut-être pas tout le peloton, mais globalement, les performances ont augmenté. On a déjà fait un épisode là-dessus, on renvoie les gens vers ça si ça les intéresse. Donc voilà, ce mec-là qui bat ses performances par où il est passé, je me dis que s'il n'a pas de soucis ici en 2025, il va répondre présent.
C'est ça la question, hein. C'est est-ce que Vingegaard saura combler le fossé? Et comme vous dites, une saison n'est pas l'autre. Donc, en effet, imaginons qu'un certain protocole utilisé par UAE ne le soit plus l'année prochaine, mais qui sait que les écarts ne seraient pas aussi faramineux que cette année. Donc, voilà, on verra ce qui va se passer en 2025, mais vu ce qui est vu en 2024, c'est que Pogacar risque d'écraser le tour.
Ouais, parce que par contre, le protocole, en tout cas, le monoxyde, bah, Vingegaard le prenait aussi. Donc,
Probable.
bah, ça avait été reconnu apparemment et par Pogacar et par Vingegaard. Donc là, je crois pas que c'est ça qui a fait la différence entre deux. Peut-être avec le reste du monde, mais entre deux, je suis pas sûr.
Ça
Mais
a
enfin, à
été
voir.
reconnu, bah, on va pas débattre de ça, mais l'utilisation pour détecter la VO2 max, mais pas
Oui.
l'utilisation à des usages de banc. Mais bon, bref,
Bien sûr, bien
c'est pas le
sûr.
sujet
Oui,
de
de toute
ce
façon,
podcast
on ne le
ici.
saura même pas, de toute façon. Donc
Ouais.
voilà. Ok, ben, je voulais en venir à Remco, si vous n'aviez plus rien à dire sur Pogacar, Vingegaard. Je voulais en venir à Remco. Bon, à mon avis, c'est que Remco, il ne peut pas se mêler à la bagarre, malheureusement. Hein. Je pense qu'il y a un monde. Mais il a donné des signes hyper positifs l'année passée. On va voir son calendrier. Imaginons qu'il n'aille pas sur le Giro. Partons dans l'hypothèse où il va faire le tour et ce sera son objectif. Bon, ce sera évidemment un candidat au podium, peut-être le favori pour la troisième place. On l'a bien recruté chez Patrick Lefebvre, on a recruté Ethan Hayter, on a recruté Shackman, on a recruté surtout Valentin Paré-Peintre. Allez, je vous donne la place de Patrick. C'est quoi la composition pour accompagner Remco?
Encore une fois, vu le parcours, Landa et Paré-Peintre, les deux premiers noms cochés. Là, Paré-Peintre, pour le coup, c'est un transfert en or. Et Landa aussi l'année d'avant. Parce que, voilà, Remco, bon, favori troisième place, ben, je pense quand même, hein, il met 10 minutes au quatrième l'année dernière. C'est pas le parcours, ben, lui, justement, c'est un parcours qui, sur papier, n'est pas censé lui convenir plus que ça. Mais Remco nous a tellement habitués à nous bluffer et s'est tellement amélioré sur les longs cols. Que, voilà, podium, ça, grand, grand, grand favori. Et si jamais il a un jour moins bien, ben justement, Paré-Peintre et Landa seront là pour lui et c'est les candidats idéaux pour ça, pour les très longs cols.
Avant de te donner la parole, Romain, dernière question pour Alexis. Grand, grand, grand favori, même si Roglic en fait aussi son objectif.
Ouais.
Ok. Romain.
En 2025,
Ok.
Je suis d'humeur chafouine. Et donc, je vais de nouveau balancer une assertion. C'est le tour parfait pour Remco.
Ah oui.
C'est le tour parfait pour Remco dans l'hypothèse où Remco vise la victoire sur le Giro ou la Vuelta.
Ah
Alors,
oui,
pourquoi
ça.
je
Ah
dis ça?
oui. Ah bah oui, pour le maillot à
Parce que.
poids,
On est
oui.
d'accord. Et il l'a dit. Il l'a dit, il voudrait gagner un nouveau grand tour en 2025. Et pourquoi je dis que c'est le tour parfait? Parce que c'est un tour qui va. Ça va être compliqué cette année-ci de doubler avec un autre grand tour. Hein. Donc, si Pogacar et Vingegaard viennent faire le Tour de France à fond, ça va être difficile d'aller chercher le Giro et la Vuelta en même temps tout en étant à fond. Même si. On a bien vu que
On n'exclut plus rien.
Pogacar est... Voilà, donc il faut quand même. Mais c'est peut-être effectivement une chance offerte à Remco d'aller chercher
C'est vrai.
un Giro ou une Vuelta. Ce qui n'empêche pas Remco de venir avec des ambitions sur ce tour. Et c'est vrai qu'on a une première semaine qui est assez intéressante. On pourrait avoir Remco Evenepoel en jaune au premier jour de repos. Hein. On a quand même un chrono. Il y a quand même des choses positives dans ce tour, dans ce tracé, même si globalement je suis déçu. Mais le chrono de Caen, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus eu un chrono individuel d'une longueur de 33 km. Ces dernières années, on était plutôt sur un total de kilomètres contre la montre. Qui était de l'ordre de 30, 30, voire un peu moins de kilomètres, dont la moitié ou tous en montée. Donc là, c'est quand même intéressant. C'est quand même, en théorie, un profil où là, Remco doit battre Pogacar. Il l'a montré à Nuit Saint-Georges l'année passée, et doit battre Vingegaard. Et puis, ces premières semaines, a priori, Remco n'a pas grand-chose à envier à Pogacar. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vu sur. Allez, si je prends la fameuse étape du Mont d'Or dont on parlait tantôt, un mini Liège-Bastogne-Liège, Ben voilà, qui a remporté les Bastogne-Liège ces dernières années? Ben, c'est soit Pogacar, soit Remco. Ils n'ont jamais couru l'un contre l'autre, puisqu'on se rappelle tous évidemment de la chute qui a occasionné la fracture du poignet de Pogacar en 2022. Donc, 2023, 22, non, 23.
23, 23.
Les années s'enchaînent et se ressemblent. Mais donc, du coup, je pense que ça peut être intéressant pour Remco de venir sur le tour. Avec d'autres ambitions que le
Ouais.
général, mais on sait aussi que le projet Remco, dont on a beaucoup parlé dans nos petits plateaux, notamment en 2023 justement, que la pression des sponsors notamment aussi, vont peser quelque part dans la balance, et je vois de toute façon mal Remco Evenepoel prendre le départ du Tour de France sans se dire « je vais quand même aller essayer de viser à nouveau un podium
Ouais, c'est ça.
». Mais pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que si moi je suis Patrick Lefèvre et que je dois mettre oui non sur papier, je vous rejoins tout à fait. Au côté de Remco, je mets Landa et Paré-Peintre comme premier nom, et Van Wilder certainement. Je mets aussi Vervaak qui est le compagnon de chambrée d'Evenepoel. Et puis derrière, je vais mettre des mecs pour Merlire.
Ah, si Soudal veut viser les victoires d'étape, y compris avec Remco, j'ai pas fait l'exercice, mais on le fera le cas échéant. Il y a beaucoup d'étapes qui peuvent cocher, hein. Et Remco aussi à titre individuel.
Imaginez que Remco aille chercher un maillot jaune, ne fût-ce qu'à Caen, et puis le cède par la suite. Et que Merlire aille chercher lui aussi le maillot jaune précédemment sur les
À
étapes
Lille.
de plat à Lille. Que Merlire soit dans la course pour chercher le maillot vert. Ben, Soudal peut réussir un très grand tour, quitte à placer encore Remco dans le top 3, top 5, ou maillot à poids, ou que sais-je. Donc, il y a vraiment une question qui doit se poser, j'imagine, chez Soudal Quick-Step, c'est avec quels objectifs va-t-on venir sur le tour? Et forcément, de ces objectifs dépendra pardon, la constitution de l'équipe. Ça, c'est une
Parce
évidence.
qu'il sait que si rien ne change, il ne peut pas gagner ce tour. Donc
Bien sûr. Et je l'avais déjà dit en 2023, je vais le redire ici, je pense qu'un Merlier a sa place dans une
Oui.
équipe autour de Remco. Bien sûr, Merlier ne va pas bosser pour Remco dans la montée finale de l'Appling ou du Mont Ventoux, mais un Merlier peut tout à fait protéger Remco contre le vent dans ses étapes, dans ses premières parties d'étape de montagne, tout en ayant sa carte à jouer sur les autres étapes. Et vous allez me dire, oui, mais avoir Merlire, ça implique d'avoir Van Lerberghe, hein, qui est son poisson pilote fétiche. Pour bien faire, il faudrait aussi un autre gars capable de protéger un peu du vent Merlire pour les étapes de montagne, de sprint, pardon. Mais il faut aussi protéger Remco. Donc, il y aura des choix à faire, c'est une évidence.
Lefebvre a ouvert la porte, en tout cas il a parlé
Bien sûr.
de ça récemment. Je ne sais pas comment il faut le prendre, enfin, c'est des informations qui viennent tôt, trop tôt en fait, pour qu'on les
Oui.
interprète vraiment. Mais j'ai quand même une petite question. À votre avis, vous n'êtes pas dans sa tête, mais on va essayer de vous mettre dans sa tête à Patrick. Si il ouvre la porte à Merlire, c'est que justement il y aura un autre objectif pour Remco, c'est-à-dire le Giro, où il peut envisager le seul objectif de Remco, c'est le tour, et je prends quand même Merlire avec.
Le plus logique, ce serait d'emmener Merlire si Remco ne vise pas le classement général. Ce serait le plus logique, même si ce n'est pas forcément incompatible de faire un sprinter et un leader de classement général. Mais...
Dans le tour l'année passée, il a délibérément choisi de se passer de Merlire pour encadrer à 100% Remco. Ici, le tour est encore plus montagneux que l'année passée. Donc, s'il est dans cette dynamique, ça a tout son sens de continuer dans cette dynamique, effectivement, d'inclure un Paré-Peintre en plus, plutôt que d'aller chercher un Merlire en plus. On a quand même des mecs comme Asgreen qui vont quitter l'équipe, mais la logique voudrait de ne pas prendre Merlire, la logique de Lefebvre.
Je regardais juste un élément, je ne sais pas si ça peut jouer ou pas, je venais de vérifier pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Merlier est en fin de contrat cette fin d'année. Est-ce que ça peut jouer aussi? Parce qu'il faut le contenter, parce qu'il était quand même très déçu l'année passée, il l'a dit, hein, qu'il voulait, lui, il se voyait bien bosser. Enfin, il a vraiment milité pour sa place, qu'il n'a finalement pas eu. Bon, je ne sais pas si ça peut
Il l'a
jouer ou
encore
pas. En
dit
tout cas,
récemment, en
Merlier est en
pensant.
fin de contrat. Ouais, voilà. Bon, là, on parle des tout tout grands et de ceux qui vont animer le tour. Moi, j'aimerais bien vous lancer sur un autre sujet. C'est les plus petites équipes. Les plus petites équipes, parce que donc on connaît fatalement les participants au World Tour qui seront là. Lotto sera automatiquement invité et Lotto ira. Si Lotto doit faire une impasse, ce sera évidemment pas sur le Tour de France. Israël sera là. Il reste deux places. Il y avait une OX l'année passée. On a Total Energy, qui bah, en plus a fatalement la qualité d'être français. Mais on a une équipe qui recrute de fou et qui recrute un ancien champion du monde français, la Tudor, qui a quand même recruté, en plus de Hirschi et autres, ben, surtout Julien Alaphilippe. Est-ce que le Tour de France peut se passer de Julien Alaphilippe et de la Tudor pour vous? Donc il y a deux équipes à prendre, à mon avis, dans ces trois-là. Selon vous, qui va sauter?
C'est compliqué. Il faut jamais oublier qu'il y a, de mémoire, et j'espère ne pas dire de bêtises, une règle qui veut que pour pouvoir prétendre à un ticket, une invitation au tour, il faut être dans les 30 meilleurs UCI. Et il faudra vérifier où en sont toutes ces équipes. A priori, elles sont dans les 30. Je pense que Tudor y compris. Mais donc, effectivement, c'est d'autant plus compliqué que spontanément, moi, j'aurais plutôt tendance, effectivement, à prendre Tudor parce on le sent, il y a, je vais pas dire une pression, mais il y a un lobbying vraiment qui est fait pour mettre Tudor au départ, même si Tudor a dit, hein, notre objectif en 2025, ils ont, oui, ils veulent une invitation, c'est clair, en tout cas, ils sont candidats, mais leur objectif, c'est d'aller chercher des points dans les courses d'un jour pour obtenir une des fameuses places qui leur permettrait, comme ben, Lotto et Israël actuellement, de pouvoir prétendre à une invitation automatique dans les courses World Tour. Donc, voilà, les trois équipes sont demandeuses, forcément, qu'ils ne le seraient pas. Avec chacune des arguments. Celle qui a, je trouve, le moins d'arguments, c'est Total Energy. Mais tu as dit, d'une part, elle est française, d'autre part, elle a quand même remporté peut-être la plus belle étape du Tour l'année passée avec Anthony Turgis. Donc, il y a quelque chose qui s'est opéré aussi l'année passée chez Total. Et justement, plus que jamais, Total peut-être mérite qu'on lui redonne une chance, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes, hein. Donc c'est très compliqué. Moi personnellement, je suis un grand fan de Uno X et de la dynamique qu'il y a dans cette équipe-là. Et donc je serais très, très déçu de ne pas voir Uno X. Mais comme le parcours m'a déjà fortement déçu, j'ai malheureusement peur que ASO ait décidé de pourrir mon Tour de France 2025. Et donc effectivement, opte pour Tudor et Total Energy en laissant sur le côté Uno X. Ce que j'espère, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de faire un choix. Et que dans le marasme économique actuel que connaît le cyclisme, bah, l'UCI se dise, OK, on va faire une fleur, comme ça s'est déjà fait, notamment sur, je pense, une Vuelta ou un Giro il y a un an ou deux, et autorise trois invitations supplémentaires des deux donc qualifiés d'office.
Je pense, si je dis pas de bêtises, que bah, Cyril Saugrain, qu'on avait reçu hein, en début de saison, minait assez pour ça en réduisant le nombre de coureurs alors par équipe pour pas faire grossir le peloton. Voilà. Bon, après ça se fait pas comme ça, mais ouais, je sais pas. Alexis, ton avis, toi, sur les
Moi,
invitations?
je vois bien InnoX. D'ailleurs, Alexandre Christophe, dans son interview d'après présentation, n'avait pas l'air de douter de la participation d'InnoX. Il disait, je suis très content qu'il y ait de nouveau l'arrivée sur les champs, parce que j'aime beaucoup cette arrivée, etc. Donc, voilà, il a l'air d'être confiant. Je vois bien, pourquoi pas aussi Dekne Sundt renaître un petit peu de ses cendres et venir profiter des très longues étapes de montagne. Là où, justement, chez Tudor, bah, ils ont des grands noms, ils ont Alaphilippe, ils ont Hirschi, évidemment, c'est des excellents recrues. Et d'ailleurs, je pense que le soft power ou le lobbying, comme Romain dit, voilà, l'influence de Tudor dans les coulisses va jouer un petit peu dans les décisions des organisateurs. Mais pour le moment, ils n'ont pas, si je ne m'abuse, ils n'ont pas de coureurs de grand tour, ils n'ont pas de grimpeurs, ou en tout cas de grands grimpeurs. Donc ça peut peut-être éventuellement aussi jouer. Là où Total a le très grand Steph Kras qui va pouvoir aller viser un top 14 l'année prochaine. Donc voilà, c'est compliqué, mais je vois bien une OX pour ma part.
Peut-être avant de te donner la parole, rebondir sur ce qu'Alexis vient de dire, il y a aussi une dimension peut-être à prendre en compte. Et de nouveau, on n'est pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas si ça se fait réellement, mais on peut imaginer qu'il y a des discussions entre les organisateurs de courses et notamment de grands tours. Et c'est vrai qu'une UX était, même si non pas, ça n'a pas été concrétisé par des victoires d'étape, ils ont été ultra visibles pendant les 2 dernières années sur le tour. Ce serait presque un manque de respect de ne pas leur octroyer à nouveau cette invitation, alors que si vous enlevez Abraham Sen l'année passée, il ne se passe rien pendant, je vais pas dire la moitié des étapes du tour, hein, mais enfin voilà, je caricature un petit peu. Par contre, Tudor, c'est le chronomètre officiel du Giro. Et donc on pourrait imaginer que Tudor a aussi un intérêt à être présent, bien évidemment, sur ce Giro. Et on pourrait imaginer de voir RCF, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'organisateur du Giro, donner une wildcard à Tudor et d'avoir cette sorte de tournante entre les grands tours. Après, le cas se pose aussi pour le Giro, hein. Il y a d'autres équipes italiennes qui ambitionnent aussi une wildcard sur le Giro. Donc, c'est très très compliqué et je ne voudrais vraiment pas être à la place d'ASO pour faire ce choix, qui de toute façon va faire un déçu, c'est inévitable.
Mais nos amis du coup tordu que j'écoutais il y a peu évoquaient ça, effectivement. Et la Suisse aussi, c'est proche de l'Italie. Enfin, donc voilà, il y a des liens pour Tudor. OK. Par contre, ils disaient quand même, est-ce que ça ne tournerait pas? Est-ce que c'est inenvisageable? Et ils se posaient même la question, ils n'apportaient pas de réponse là-dessus, que les organisateurs se consultent, entre guillemets. Et pourquoi on ne tournerait pas un petit peu? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une OX qui irait sur le Giro cette année? Et la Tudor sur le tour, ou est-ce que la Tudor doublerait? Il faut voir s'ils ont l'effectif, mais moi, franchement, je regarde l'effectif parce qu'en fait, on se résume aux arrivées. Mais tu parlais du grand Steph Kras. Pardon, d'avance, dis-toi, c'est une petite blague un petit peu moqueuse, mais eux, ils ont
Marco
le très grand Marco Brenner. Donc,
Brenner. J'ai pas osé la faire. On salue
non,
Titouan.
mais c'est tout en amitié, Titouan.
Bien sûr.
Non, mais blague à part, ils ont enfin blague à part, Brenner reste un talent, on verra bien comment ils se développent, mais ils ont un bel effectif,
Oui,
pas pour
bien
aller faire un
sûr.
classement général, mais Michael Storer, c'est quelqu'un qui peut briller en montagne, et puis ils ont du sprinter, ils ont quand même Dainese et De Clayne qui était par révélation, on le connaît, mais voilà, qui a montré des belles choses, donc je trouve quand même vraiment solide, bon, ce n'est que un nom, entre guillemets, mais Trent Tineda. Ouais, je sais pas, pour moi, ce serait ma première équipe pour Détroit. C'est ceux que je prendrais
Ouais.
inévitablement, c'est la Tudor. Et puis en plus, bah, il y a Alaphilippe qui est le nom, et qui est un nom, on l'avait dit dans notre dernier podcast qu'on a fait, qui revenait enfin en forme. On revoyait enfin du tout bon en Julien Alaphilippe. Donc après, c'est à confirmer sur le début de saison avec son changement d'équipe, mais se passer d'un très bon Julien Alaphilippe sur le Tour de France, je sais pas quand même s'ils peuvent faire ça. Alors, si on regarde que le sportif, moi je vous rejoins sur une OX, hein. Évidemment, je les prends. Mais la totale, c'est français et je suis quand même sensible à ce que tu dis, Romain, qui a peut-être une deuxième chance à leur donner. Il y a quand même une sorte de petit projet qui est en place avec des jeunes français. Alors, je ne sais pas s'ils sont prêts à briller sur une course comme le Tour de France, mais voilà, c'est français, c'est un projet français avec des jeunes français qui se met en place. Ça vaut. Voilà, il le mérite. Je ne sais pas si on peut parler de mérite. Je ne crois pas. Si on prend que des critères sportifs, on va pas se mentir. Ça doit aller pour moi chez une OX, mais c'est humain. Je veux dire, qu'ils prennent une équipe française. Hein. Le Giro prend des équipes italiennes, la Vuelta prend des équipes espagnoles. Et puis, c'est pas totalement honteux. Kras, finalement, c'est dans l'ombre, mais c'est pas
Oui,
mauvais.
bien
Jäger
sûr.
t'a quand même montré de très belles choses. Donc, oui. Je pense qu'ils peuvent quand même animer aussi la course. Mais moi, je partirais sur Tudor automatiquement là, et la dernière place qui se joue entre les grands prix pétroliers finalement.
Sans Alaphilippe, je t'aurais dit que, en effet, à mon avis, les organisateurs parlent entre eux et Tudor d'office au Giro pour des raisons de sponsor. Mais c'est vrai que l'arrivée d'Alaphilippe change un peu la donne, en côté sentimental.
Et
Ouais.
Tudor a déjà fait le Giro l'année passée. On
Ouais.
va pas non plus, parce que c'est le chronométreur, les laisser à chaque fois
Non,
sur le
non.
Giro. Et le tour reste quand même,
C'est
je sais, enfin, la
l'objectif.
course la plus importante. Même si tu es chronométreur Giro, je crois quand même que là où tu es
Oui,
le
oui.
plus en vue, c'est quand même sur le tour.
Bien
Donc.
sûr.
Et pour terminer avec Tudor, Total et compagnie, c'est vrai qu'on parle des influences externes sous le tapis, etc. Total, en tant qu'équipe française, est directement en contact avec ASO. Vous allez me dire, toutes les équipes aussi, ne soyons pas naïfs, mais c'est vrai qu'une OX est la seule à ne pas avoir un lien direct avec l'organisateur. Hein, Tudor, d'accord, il est le Giro, mais Tudor, c'est Alaphilippe. Alaphilippe, c'est Marion Rousse. Si Alaphilippe décrète « je veux venir sur le Tour de France », c'est délicat pour ASO de dire au mari de celle qui organise le Tour de France femme « écoute, Julien, on ne le veut pas, on ne le prend pas ». Donc là aussi, il y a peut-être un jeu. Et je ne dis pas du tout que Marion Rousse va aller rouspéter et faire pression. Hein. Ce n'est pas ça du tout ici que je veux dire. Mais il y a toute une série comme ça de petits éléments qui, imbriqués les uns dans les autres, font que ce choix, ce serait à la fois humain et naturel d'aller vers Tudor et Total au détriment d'une X qui est une peut-être qui est celle des trois qui mérite le plus au final sur ce qu'elle a démontré sur les dernières années, notamment sur le Tour de France. Mais c'est le sport, c'est.
Totalement d'accord.
Ok, ben on verra ça, je ne sais pas quand on a ces infos, mais on attendra ça impatiemment et on verra les compositions de l'équipe. Oui, Romain, vas-y.
Ils avaient mis du temps l'année passée. Je ne sais plus quand était tombée l'information. D'habitude, les dernières années, ça tombait quand même début janvier. Là, c'était tombé très très tard. Je me souviens qu'on s'interrogeait même sur les raisons de cette annonce tardive.
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, si pour revenir sur le parcours, ça vous parle pour un autre coureur ou pas.
Les
Mais.
9 Van Nedveld. Je suis très très heureux de l'avoir sur ce parcours. Pas pour aller le gagner, évidemment. Mais
J'y avais pas pensé, mais tu dis ça. Oui, ben tu le penses, je vois bien. Tu penses quand même que
non,
ça
mais
peut être
parce
sympa sur un coup ou sur
honnêtement,
l'autre ou oui.
honnêtement, là, tout à l'heure, j'ai pensé qui pourrait être quatrième. Alors, je vais quand même pas aller vous dire que
Ah.
Van Nedveld va faire quatrième de ce tour. Mais qui va faire quatrième, c'est un très très bon grimpeur qui limite la casse sur les chronos, et encore, parce qu'avec les différences qui vont se faire sur les montagnes, à part un Canaletto-Cruz qui prend 5 minutes sur les 30 km de chrono, voilà, c'est vraiment un grimpeur qui va aller prendre la quatrième place. Et parmi ceux qui sont très bons sur les très longs cols, il y a Van Nedveld.
Oui, je n'ose plus le dire. Il y a Rodriguez, mais
Ah
j'étais
bah bien
tellement
sûr,
déçu l'année passée.
il était dans ma liste aussi, il sera candidat à la quatrième place, ça c'est clair.
Et
Aviso aussi,
Roglic.
Roglic, bien sûr, oui, bien sûr.
Mais
S'il vise le classement général.
voilà, parce que Roglic s'est pas privé pour dire qu'il a quand même l'impression que Pogacar, là, ça devient un peu injouable et qu'il va
Oui.
réfléchir où aller pour gagner des courses. Je ne sais pas si Bora peut se dire. Enfin, ils ont quand même recruté Roglic l'année passée dans un objectif. Bon, s'ils sont raisonnables, ils vont bien se rendre compte que ce n'est pas faisable. Mais est-ce que Bora peut dire, ouais, bah non, on va plutôt sur le Giro. Je sais pas,
Ouais. Ça
Roglic,
reste un
je
grand
trouve.
tour, hein, mais bon.
Bref, Roglic lui-même, hein, dans ses interviews dernièrement, déclare, je ne dors pas mal de ne pas remporter le Tour de France. Donc, il a clairement mis un terme à
Ah oui,
ses
il est
ambitions
lucide.
de victoire. Il est bien évidemment lucide. On peut imaginer qu'un Ralph Denk, donc le big boss de la Bora, enfin la Red Bull Bora désormais, le soit aussi. Et je pense que, comme je le disais pour Remco, que ça aurait du sens de venir sur le Tour de France parce qu'il faut y être et que voilà, il faut venir chercher peut-être d'autres objectifs et viser, mettons dans un grand tour ailleurs. Je pense qu'un Roglic pourrait être dans ce même état d'esprit, d'autant qu'il y a d'autres coureurs. Chez Bora, capable de faire un top 10, hein, un Vlasov, un Hindley, sont des mecs qui ont déjà montré par le passé certaines aptitudes leur permettant d'ambitionner un top 10. Je ne dis pas qu'ils vont le faire automatiquement, hein, mais il y a, y a, y a, puis y a le petit Lipovic aussi hein, qui a montré de belles choses. C'est évidemment fort tôt pour le propulser là, dans un top 10 de ce type de Tour de France. Mais voilà, c'est. Ça va être compliqué et il va falloir voir. On sait que le Tour de France, c'est peut-être la course sur laquelle une équipe vient en se disant, si on est dixième, on a réussi notre tour, quoi. On a réussi notre course. Donc, il y a certainement des équipes qui vont venir dans cet objectif-là. Mais est-ce que ce ne serait pas décevant, finalement, pour une équipe comme Bora, de venir en se disant, si on fait quatrième, allez, peut-être trois, on sera content, on aura réussi. Et donc c'est là où peut-être qu'on va avoir des surprises. On va peut-être avoir un top 10 Tour de France où on aura 5 mecs du UAE et 3 mecs de Visma de nouveau. Hein. On avait eu ça comme je veux dire, changement l'année passée où d'ordinaire il y avait parfois un mec, un équipier qui intégrait le top 10. Ben là, on avait, je pense, 6 mecs de deux mêmes équipes dans le top 10 hein, l'année passée. Et prenez l'exemple d'un Ayuso. Un long chrono, il est bon sur le chrono. Des longues montées, il est bon dans les longues montées. Voilà un mec qui est capable de chercher une 3, une 4e place. Mais est-ce qu'un Ayuso va vouloir venir faire le larbin sur le Tour de France, avec tout ce qu'on a déjà vu en 2024, en sachant que ce Tour de France va peut-être encourager Pogacar à ne pas aller de nouveau sur la Vuelta? Donc voilà, c'est évidemment trop tôt pour le dire, mais c'est un type de parcours qui va nécessairement devoir rebattre peut-être certaines cartes au sein des ambitions et donc des compositions d'équipe. Peut-être en boutade, on sait que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont aussi fans. à Mikel Landa. Est-ce qu'un Mikel Landa ne peut pas, pour une dernière année chez les pros peut-être, tenter d'aller refaire un bon classement dans la mesure où un Remco se contenterait de faire soit un grand tour, carrément, ou alors de venir chercher des étapes, etc. Après, ça commence à faire beaucoup s'il faut protéger Remco, Merlire, Landa. Voilà. Ça
Oui,
devient compliqué.
et puis la question se pose, si Remco il va sur le Giro, Landa il va pas l'aider sur le Giro, il reste focus si le but c'est de gagner
Giro
le Giro.
Vuelta. Peut-être plus Landa va aller doubler Giro Vuelta, du coup Remco Giro Tour. Mais...
Il y a quand même, on l'a dit, hein, par épingle, Schachmann, il y a des profils dont ne disposait pas Soudal l'année passée, qui Soudal devrait compter sur Landa pour épauler Remco. Je pense que Landa reste à ce stade le meilleur soutien possible pour Remco dans cette équipe, mais il y a des alternatives dans l'hypothèse d'un grand tour où la concurrence, il n'y a pas ni Pogacar ni Vingegaard. Ça.
En dehors de Valentin Paré-Paître, c'est quand même largement en dessous de Landa, je pense, tu vois, au
Oui,
niveau des équipiers.
oui.
Donc,
Je veux dire, il y a une plus grande densité que ce qu'on a connu jusqu'à
oui, bien
présent, quand
sûr.
même.
Bien sûr. Je suis un peu déçu parce que moi, je trouve qu'il y a un profil quand même. Enfin, vous avez cité le profil, il y a un mec dont vous ne parlez pas et j'arrive pas à comprendre. Je ne comprends même pas qu'Alexis dise que Remco soit le très très grand favori pour la troisième place parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau fantastique dans le peloton. Il a signé à la Jayco. Ben O'Connor, personne n'en
Ben
parle.
non, justement, s'il y a bien un parcours qui lui convient pas, c'est
Ah ben
celui-là.
je sais pas,
Mais écoute,
Movistar, c'est 5 meilleurs coureurs au monde, donc
oui.
je sais pas moi.
À part quelqu'un comme lui qui a tendance à un petit peu se surestimer, je serais pas surpris et je ne le renvoudrais pas que des gars justement comme Remco et Roglic ne viennent pas faire le général sur le tour et que du coup, à part Pogacar et Vingegaard, personne ne vient sur ce Tour de France avec l'ambition de le gagner. Ça ne me surprendrait pas. Et je trouverais ça tout ce qu'il y a de plus logique, en fait. Ce serait triste pour le vélo, mais ce serait normal.
Allez, conquête maillot à poids pour tout le monde.
Ouais,
Ça pourrait être sympa.
ou tout le monde sur le Giro, quoi.
Oui, ça c'est encore autre chose, évidemment. Mais oui. Ok, bah on verra tout ça, hein. On a encore un peu de temps. Je vous remercie pour vos avis éclairés sur le parcours. Je vais me permettre de faire un tout petit peu de pub à nouveau pour nos amis du coup tordu, parce que je sais qu'ils enregistrent ce soir. Et si vous aimez nos discussions, débats, etc., c'est une chose, c'est très bien. Restez. Et on en fera encore plein. Mais si vous cherchez une présentation vraiment hyper détaillée, ce que nous, on n'a pas fait, parce que ce n'est pas spécialement notre marque de fabrique, parce que ça se fait ailleurs, etc., bah, je pense qu'eux le feront certainement assez détaillé. Donc bah, allez les écouter. Si vous voulez un complément un peu différent de ce qu'on fait ici, bah, n'hésitez pas à y aller. Moi, je ferai ça d'ailleurs dès qu'ils l'auront mis en ligne. Je pense que là, il y aura une belle présentation. Donc voilà. Et d'ici là, bah, on se retrouvera très bientôt pour un prochain podcast. On continue à essayer d'animer un petit peu l'intersaison. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao, ciao!
Ciao, ciao,
ciao,
salut, salut.
ciao.